au cœur, la plaie est ouverte.
Et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi. Faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leur rêve au mi-temps, et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Y en a pas un sur cent, et pourtant ils existent, la plupart fils de rien, ou bien fils de si peu on ne les voit jamais, que lorsqu'on a peur d'eux, des anarchistes. Ils sont morts 110 fois, pour que dalle et pourquoi, avec l'amour au poing, sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Y en a pas un sur cent, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue. Les anarchistes, ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier qu'il y en a pas un sur cent. Et pourtant ils existent, et qu'ils se tiennent bien, bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes.
Samedi prochain, retour de festival, le Festival international du cinéma méditerranéen. Nous étudiants de Rafiki Fariala, Gueule noire de Mathieu Turi. Et nous parlerons également de livres. Très très bonne semaine et surtout, comme d'habitude, tenez bon.
À votre bon cœur, messieurs, dames. À votre bon cœur, un petit sou pour Henri. Un petit sou pour Henri.
Henri mendie hardiment, riant. Henri mendie hardiment, riant, pour apitoyer les passants.
Et voilà, ouverture comme à l'accoutumée avec un palindrome de Gérard Durand, le gérant du rare, dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques. Vous avez peut-être parfois entendu des gens dire « c'est plus comme avant » et effectivement, les guerres, c'est plus comme avant. Je me souviens quand j'étais môme, j'avais défilé contre la guerre du Vietnam sur les épaules de mes parents, 320 000 soldats morts, 2 millions de civils morts. Mais pour la guerre du Vietnam, on savait, du moins dans la tête de mes parents et dans la mienne, on savait qui étaient les bons, qui étaient les méchants. Et puis tiens, même récemment, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. 2 fois 5 000 morts, 4 000 civils, puis la guerre du Donbass avant avec 14 000 morts. On savait, sauf à être complètement azimuté, qui étaient les bons, qui étaient les méchants. Et puis même, tiens, remontons, la guerre du Sud-Soudan. 10 000 morts, 1 million de réfugiés. Là, c'est plus dur. Hein. Vous savez plus qui étaient les bons, qui étaient les méchants. Mais il y avait toujours des morts, des civils. Et puis, c'était quelques titres aux informations. Tiens, et la guerre au Darfour, 300 000 morts. On ne savait pas qui étaient les bons, qui étaient les méchants. Et puis maintenant, conflit israélo-palestinien, on te somme de choisir ton camp. On te somme de dire qui sont les bons, qui sont les méchants. Et si tu soutiens les mômes de Gaza, te voilà antisémite. Si tu pleures les femmes violées, les hommes égorgés, les mômes brûlés, te voilà pro-américain à défendre les riches contre les pauvres. Mais foutez-nous la paix, bon Dieu. Non, pas bon Dieu. Dès qu'ils foutent Dieu là-dedans, ça va plus. Foutez-nous la paix. Dessous de scène, quelques petits, je me souviens aussi, pour ouvrir ce magazine. Je me souviens que c'est sur le retour des vacances sur le marché de Deauville que j'ai acheté ma première boîte de masques chirurgicaux, importée de Chine évidemment, et c'est chez un couturier du 19e, place des Fêtes, faisant aussi étrangement réparation d'ordinateur, mais bon, on est dans le 19e, que j'ai acheté mes premiers masques en tissu, lavables 30 fois. Je me souviens que j'avais dit « Ah ben alors, bon anniversaire !» quand Nolwenn était venu me voir à la fin du cours pour m'annoncer « Je viens d'avoir 18 ans ». Puis elle avait ajouté « Et donc, ma mère me fout dehors, il va falloir qu'on me trouve un foyer. » Putain d'anniversaire. Je me souviens que Lucien Berceau avait été condamné à mort et fusillé dès le lendemain, en 1915, pour avoir refusé de porter dans les tranchées le seul pantalon qu'acceptait de lui octroyer son sergent, le pantalon taché de sang d'un de ses camarades morts. Je me souviens que deux de ses camarades avaient voulu intercéder en sa faveur auprès du colonel et furent condamnés aux travaux forcés. Et je me souviens aussi d'avoir été vachement surpris de lire son histoire sous la plume d'Alain Scoff, Alain Scoff que je tenais pour un simple acteur et auteur de sketch du Collard au Chaud. Je me souviens de Prenez garde à l'intervalle entre le marchepied et le quai. Je me souviens que c'est en entendant la chanson d'Ouvrard « Je ne suis pas bien portant » avec la rate qui se dilate et le foie pas droit que j'ai compris le calembour sur le nom du serviteur « Dilate la rate » dans « Is no good » de Goscinny et Tabarly. Tabarly, je veux être calife à la place du calife. Je me souviens que pour devenir moniteur de centre aéré pendant 2 mois, j'ai dû faire 2 stages, BAFA, auprès des francs et franches camarades, et ces stages ont finalement aspiré le salaire d'un mois et demi d'encadrement de jeunes enfants. Ah, je me souviens que c'était Fabienne qui était la spécialiste pour trouver dans la cour des cailloux blancs, qui lui permettait ensuite de tracer sur le sol de la cour des marelles. Ah, mais c'était pas elle qui les traçait. Déjà, les autres filles trouvaient qu'elles ne savaient pas bien faire les cases, ayant toutes la même taille, mais surtout, elles s'étaient retournées une fois un ongle, en traçant d'un trait trop sûr la ligne du ciel, avec une pierre trop petite. Je me souviens de 5 chansons pour enfants de Max Rongier, à Génor le brontosaure surtout, apprises par Marie et François à la maternelle. Par la suite, les autres parents que j'ai croisés n'en connaissaient tout au plus qu'une, et j'ai compris qu'il y avait un biais quand même. La directrice de l'école maternelle était Bernadette Rongier, épouse de Max. Je me souviens qu'Hervé et Carole avaient convenu, 6 mois avant leur mariage, de tester, chacun de leur côté, une aventure extra-conjugale pour être sûr et sûre d'avoir fait le bon choix. On n'achète quand même pas un melon sans un sou pesé deux ou trois, m'avait dit Hervé. Et parce que ça faisait couple moderne. Et c'est seulement après 10 ans de mariage, 2 enfants à l'élémentaire et un F3 acheté à Gambetta, qu'ils avaient fini par s'avouer qu'aucun des deux n'avait sauté le pas et fait entrepris quoi que ce soit. Je me souviens d'Arthur Caillé et de Gaston Verlet, deux noms, au hasard, attrapés sur le long monument aux morts de 1914 le long du cimetière du Père Lachaise. Je me souviens que Corinne était en Israël quand Yitzhak Rabin a été assassiné par Yigal Amir. Elle avait rapporté un double CD à la pochette bleue, hommage réalisé peu de temps après par des chanteurs dont je ne connaissais même pas le nom. D'ailleurs, leur nom était écrit en hébreu.
Je sais, là-bas tes sœurs, tes frères, sur un petit bout de terre, où y a pas eu de silence depuis tant d'années. Là-bas mes sœurs, mes frères, sur un petit bout de terre, y a comme une ressemblance, et pourtant tu... Chez ses amis de France, on a montré du zèle, on a fait la vaisselle sans casser d'assiette. Tu m'invites à la danse, le vin donne des ailes, la terre est un peu molle, on s'envole. Fais-moi rire comme tu sais. Là-bas tes sœurs, tes frères, là-bas mes sœurs, mes frères, sur un petit bout de terre, y a comme une ressemblance, y a comme une ressemblance.
Il y a comme une ressemblance, chanson de Daniel Messia de 1982. Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques, Moa ne fait pas qu'aller au théâtre, il amène le théâtre dans votre maison avec des invités. Moa Guimbarde, pour commencer.
Absolument, tradition oblige. Bon, ben la première a été cassée, c'est une nouvelle, donc j'espère qu'elle va assurer. Voilà, bonjour, 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 Radio Libertaire. Nous sommes là et j'ai une invitée de qualité qui s'appelle Amélie. Alors, tout à l'heure, je demandais d'où vient ce mot Amélie. Il y a Émilie, mais Amélie, c'est la première fois que j'entends ça.
Eh ben oui, je ne sais pas. Je sais pas d'où ça vient. C'est un vieux prénom. Voilà.
Alors, présentez-vous.
Amélie, comédienne sur le journal d'un fou de Nicolas Gogol.
Nicolas Gogol.
Oui, qui joue actuellement au Théâtre du Lucernaire jusqu'au 10 décembre.
D'accord.
Qui est une mise en scène de Ronan Rivière et du collectif Voix des Plumes.
Ah, tiens, ben, je vous en lis un petit résumé.
Oui.
Aksenti Ivanovitch, Popristine, discret fonctionnaire de Saint-Pétersbourg, a bien du mal à trouver sa place dans le monde. Il vit seul avec sa domestique Mavra,
c'est moi, oui.
Que vous jouez, je crois.
Oui. Oui.
Et ses amours et ses ambitions sont contrariés par sa maladresse et sa distraction. Il s'invente alors une vie nettement plus enviable, jusqu'à perdre tout rapport à la réalité et s'imaginer roi d'Espagne. Waouh ! Une adaptation donc de la plus drôle et de la plus touchante des nouvelles de Pétersbourg pour trois interprètes, Popristine, sa domestique Mavra, et un pianiste qui accompagne donc sur scène avec des morceaux de Prokofiev, cette surprenante ascension vers la folie. Malheureusement, le metteur en scène n'a pas pu venir, il s'est excusé.
Oui, voilà, et je le remplace, je voilà, vais tenter de le remplacer.
Amélie le remplace. Et donc tu vas nous parler un petit peu de cette aventure du Alors, journal d'un fou. Pourquoi d'abord journal d'un fou?
Pourquoi avoir choisi de monter le journal d'un fou?
Oui, et alors, ça, le titre, d'où ça vient, un journal d'un fou?
Ah ben, alors,
les fous ont des journaux?
Certains, sans doute. Je ne sais pas. Mais Nicolas Gogol a écrit cette nouvelle vraiment sous forme d'un journal. Mm-hmm. Donc, c'est jour après jour et c'est Popristine qui tient son journal, qui écrit voilà, dans son journal. D'où le titre, le journal d'un fou, je pense.
D'accord. Et qu'est-ce qui a motivé justement le choix de cette...
Alors,
de monter cette pièce.
Pas moi qui l'ai choisi, pour le coup, c'est Ronan Rivière.
Oui.
Ronan est un passionné de Gogol. C'est vraiment, je crois que c'est un de ses...
Donc Ronan Rivière, je ne sais pas si vous l'avez compris, c'est le metteur en scène.
Oui, le metteur en scène et le comédien. C'est
lui et le comédien aussi.
Qui joue Popristine.
Voilà.
Voilà. Et donc, c'est, voilà, il adore Gogol. Il a déjà monté, d'ailleurs, avec la Voix des Plumes, il a monté Le Révisor, il y a une dizaine d'années, qui va reprendre sans doute l'été prochain. Il a monté Le Nez, aussi.
D'accord.
Donc voilà, c'est la troisième nouvelle de Gogol qui monte, je crois. Oui, c'est ça, c'est la troisième. Et c'est une nouvelle qui lui tenait vraiment à cœur, personnellement, voilà. Pourquoi il a choisi cette nouvelle.
Et vous êtes combien?
On est trois. Alors normalement, c'est rigolo parce que c'est un monologue, le journal d'un fou,
oui,
à la base. Et là, il a choisi d'inclure Mavra, qui est nommée dans le texte original de Gogol.
Domestique.
La domestique de Popristine. Mais elle est simplement nommée, puis de manière assez furtive d'ailleurs, dans l'œuvre originale. Là, il a choisi de créer un dialogue entre Popristine et Mavra. Ah, je suis pas assez près du micro, c'est ça? Je me rapproche. Donc, il a choisi de dialoguer un petit peu. Ça rend peut-être un plus vivant. Non, c'est pas forcément plus vivant. Mais le côté témoin, parce que Mavra, c'est vraiment, elle est témoin de cette folie-là.
D'accord.
Et du coup, ça donne, à mon sens, quelque chose de beaucoup plus concret à cette histoire. Ça existe vraiment, puisqu'il y a un témoin de cette folie-là.
D'accord.
Bon, ça, c'est mon point de vue. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, parce que c'est vous qui l'avez vu.
Non, mais moi, j'ai trouvé ça extraordinaire, très drôle, très, très enlevé. Très subtil,
oui.
Et puis accompagné du piano, bien sûr.
Ça, c'est
ça, ça rajoute une dimension autre, quoi.
Oui, c'est toute la musique en direct, comme ça, c'est...
On n'était pas très nombreux. Hein.
Vous n'étiez pas... Je ne sais pas quand est-ce que vous êtes venu.
Ah ben, la première.
Ah ben, la première, c'était... Vous étiez Si, c'était complet. Mais c'est parce que c'est une petite salle.
Voilà, c'est ça, voilà.
Oui, il y a 60 places.
Et donc ?
Et donc, qu'est-ce que je peux vous dire ? je ne sais pas. Bah, dites-moi, à quel propos ?
Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce fou, justement ?
Ah, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il faudrait venir voir la pièce pour ça.
Oui.
Mais c'est vraiment... C'est un petit fonctionnaire dont la tâche principale est de tailler les plumes du directeur.
D'accord.
Voilà, donc il a une activité qui est, pour l'extérieur, pas très passionnante. Mais lui, il met beaucoup d'amour, beaucoup de zèle à tailler les plumes du directeur, dans son propre bureau en plus. Et donc, une vie relativement médiocre. Il se trouve que ce fonctionnaire tombe amoureux, en plus, de la fille du directeur.
Mmh.
Et il voit bien qu'il n'est pas taillé pour tout ça. Il fait pas le poids.
Mmh.
Et donc, il est, en plus d'une timidité, d'une maladresse, c'est effroyable. Il va... Petit à petit, il faut qu'il trouve une porte de sortie.
D'accord.
À sa vie, qui est trop étriquée, et il n'y arrive pas. Et la sortie, bah, ça va se faire par la folie, en s'inventant une autre condition.
Mais la folie, par rapport à quel critère, justement ?
La folie par rapport à quel critère ?
Oui, c'est contrairement à ce qu'on voyait de par-ci par-là d'habitude pour casser un petit peu le rituel quotidien.
Alors bah déjà il va se mettre, il va commencer à entendre des voix.
Ah voilà.
Oui, oui.
Donc c'est de là que commence la folie.
Eh ben il tombe amoureux de cette fille du directeur. Il fou amoureux d'elle et un jour il entend les chiennes, deux chiennes, parler. Et il se trouve qu'il y en a une, c'est la chienne de la fille du directeur.
Alors et c'est lui qui fantasme tout ça.
Ah bah oui, sans doute. Enfin, on ne sait alors pas, peut-être que les chiens parlent.
Ce que Nicolas nous a préparé un petit peu, comme intervention...
Thank you.
Sonate pour piano numéro 7 de Prokofiev. Le pauvre Askenzi, on était à ça, il entend des voix, mais il entend aussi du piano, si j'ai bien suivi.
C'est ça, il entend du piano. Et c'est la toccata, et ça galope, en fait, ça galope. Mais parce que ça galope aussi dans la tête de Poprishkin. Voilà, donc on a vraiment, ça illustre bien ce qui se passe à ce moment-là dans la cervelle.
Donc, si j'ai bien compris, ça a plu au département de Versailles, c'est ça?
Ah oui, parce qu'il a été créé, c'est un spectacle qui a été créé pour au mois Molière, en juin dernier.
D'accord.
Mais parce que la compagnie La Voix des Plumes est hébergée entre guillemets par la ville de Versailles.
D'accord.
Voilà, donc chaque année elle est programmée au festival du mois Molière.
Et donc c'est eux qui ont sponsorisé un petit peu ou...
Sponsorisé d'une certaine manière en programmant le spectacle, oui, puis après ils mettent à disposition des locaux pour la compagnie à Versailles. Voilà, un appartement, une adresse où on peut stocker un petit peu de décor. Ouais.
D'accord. Et sinon, pour toi, ça n'a pas été très compliqué
d'interpréter
le personnage?
Non, c'est un rôle qui est beaucoup en écoute. C'est vraiment un rôle témoin de cette folie-là. Donc, Bafra est beaucoup, beaucoup en écoute. Après, j'ai un peu de texte. Alors, si le texte, pour le coup, c'est marrant, parce qu'il a été compliqué à ingurgiter, à digérer.
Pardon, je ne suis pas...
Un petit passage du texte. Ah, justement, j'allais vous dire que j'ai eu beaucoup de trous de texte. Pendant quelques représentations.
Cool.
Oui, cool. Qu'est-ce que je peux dire? Ah, quel passage serait... Enveloppé dans son pardessus, il s'est assis sur le perron du directeur, a attendu de longues heures devant sa porte dans l'espoir de la voir un bref instant sauter dans sa calèche, mais personne n'est sorti. Les jours qui ont suivi, toutes les puissances de son être se sont focalisées sur la mémoire de cette bouche qui s'était penchée vers lui et lui avait parlé. Sa vie en fut complètement absorbée. Si quelqu'un d'autre que moi l'avait vu assis à gare devant sa soupe ou marchant en rond dans sa chambre, il l'aurait pris sûrement pour un somnambule ou un ivrogne. Son regard se perdait, sa distraction naturelle s'était développée et sa pensée avait impérieusement banni tous ses sentiments, effacé même les traits et les couleurs de son visage. Seule la colère l'avait pu réveiller. Voilà.
Très bien. Tu veux rajouter quelque chose, Nicolas?
Non. Bon.
Moi, il y a une question que j'aime bien poser, parce que à l'époque où j'allais voir des spectacles, j'arrivais parfois à la bourre. Imaginons que j'ai raté le début. Qu'est-ce qui se passe au début? Comment commence le spectacle quand le noir se fait?
Alors déjà, quand vous entrez en tant que spectateur, le pianiste est déjà assis à son piano et sur le plateau, le comédien qui joue Poprishkin est aussi là.
Mmh.
Voilà. Donc c'est pas neutre en entrant dans la salle. Et ça démarre par « Il m'est arrivé une histoire extraordinaire ». Et c'est une histoire extraordinaire. Voilà.
Mmh.
Et il y a déjà eu d'autres mises en scène du journal d'un fou. Alors,
oui.
Qu'est-ce que celle-ci va apporter d'autre et est-ce que vous avez vu les autres mises en scène, d'autres mises en scène avant, au risque d'être influencé ou au contraire de vous démarquer?
J'en ai vu avant, mais il y a très longtemps. J'ai vu ça quand j'étais au lycée. Donc ça date, dans le cadre scolaire. Donc non, ça ne m'a pas influencé.
Outre mesure.
Non, voilà. Mais ce que celle-ci apporte de plus, déjà, je trouve qu'elle est assez... Il y a un côté burlesque dans la gestuelle de Poprishkin. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, d'ailleurs, vous l'avez vu. Mais je trouve qu'il y a un petit côté burlesque qui est intéressant, qui crée un décalage, quelque chose de joyeux. c'est pas sombre, c'est pas lourd. Il y a une belle naïveté, voilà. Et ensuite, le fait d'avoir, bon, ajouté de la musique, le pianiste en direct, ça c'est super, ça crée du vivant, ça crée du... il y a une matière qui est super intéressante, ouais. On a essayé comme ça en répétition avec une bande-son, la même bande-son, mais ça n'a rien à voir, c'est plus du tout la même chose. Il n'y a pas cette matière-là. Donc ça joue. Et ensuite, par rapport au fait de l'avoir dialogué, d'avoir ajouté Mavra, ça donne vraiment du concret aussi à cette histoire. Et elle fait le lien. Elle est à la fois narratrice et à la fois elle joue la domestique. Par moments, le...
Gogol avait parlé de Mavra ?
Oui, il en avait parlé, mais très, très furtivement.
Ah.
Oui, très furtivement. Oui.
Mais alors, il a fallu réécrire, transcrire le personnage.
Oui, Ronan Rivière a adapté effectivement cette nouvelle, puisque c'est une nouvelle à la base, c'est pas un texte de théâtre. Donc il l'a adapté et il a pioché pour étoffer un petit peu le personnage de Mavra. Il a pioché dans les soirées du hameau, je crois, un autre recueil de Gogol, une autre nouvelle de Gogol, Les Soirées du Hameau et un... Est-ce que Le Manteau, peut-être, je ne sais plus. Donc il a pioché dans d'autres textes de Gogol pour étoffer le personnage de Mavra. Mais sinon, il est resté assez fidèle au texte original.
Mmh. Enfin, c'est quand même pas en russe.
C'est pas en russe, non.
C'est déjà ça.
Non. Mais alors, finalement, il a écrit la pièce pour toi, pour que tu aies un personnage dedans, non ?
Non. Non. Lui avait très envie de jouer Pauvrissine. Par contre, je le soupçonne de ne pas avoir eu envie de faire un seul en scène. Mmh. Voilà. Il n'aime pas les seuls en scène. Donc, il avait envie d'avoir un comparse sur le plateau.
D'accord.
Ça a joué aussi.
Pour partager la folie.
Oui.
Et alors, Versailles vous a aussi produit,
financé ? Non, il n'y a pas de subvention, à ma connaissance, il n'y en a pas d'autres, hormis le fait d'être programmé, on est payé pour jouer quand on joue au mois Molière. Donc c'est une manière de subventionner. Par la ville de Versailles.
Ah, voilà,
donc c'est
ça,
une manière d'être subventionnée, en fait, puisque la ville achète la représentation.
D'accord.
Mais sinon, elle ne finance pas la création des spectacles, non.
D'accord.
Non.
Est-ce qu'il y a des droits d'auteur qui reviennent à Rivière ou...
Je n'ai pas demandé
ou
ça.
Ou d'adaptation ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout.
Non.
Je sais pas. Je sais qu'il pensait. Alors Prokofiev, il pensait que c'était tombé dans le domaine public. Pour ça, entre autres aussi, qu'il avait choisi Prokofiev parce que déjà ça, l'univers marchait bien avec celui de Gogol. Mais on s'est aperçu récemment que, ça fait 70 ans. Donc normalement, c'était tombé dans le domaine public. Mais comme il y a eu la guerre, ça rajoute des années.
Ben oui.
Donc il y a des droits d'auteur. Pour Prokofiev, voilà.
D'accord. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre ?
Je sais pas, sinon je suis très heureuse.
Par rapport à Rivière, par exemple, est-ce que vous vous entendez bien ?
Oui.
Ça marchait très bien entre les deux personnages ?
On s'entend bien, heureusement, sinon... ça fait quelque temps qu'on travaille ensemble.
D'accord.
On se connaît bien. On s'est rencontrés sur un spectacle, pas du tout de la compagnie, une autre compagnie pour laquelle on était employés tous les deux, il y a une quinzaine d'années. Et là, dans la compagnie Voix des Plumes, ça fait trois spectacles sur lesquels je participe. Donc, on se connaît bien avec Renaud. Donc, il n'y avait pas de surprise. On sait que sur le plateau, on s'entend bien. Oui,
il n'y a pas de surprise sur le plateau, mais il y a toujours la surprise du théâtre, c'est-à-dire que, en fonction des spectateurs, on joue jamais la même chose.
Non, on joue jamais la même chose, heureusement. Sinon, on s'ennuierait. mais c'est ça qui est bien. C'est le côté vivant. Il y a des moments où on se laisse surprendre par un regard, par une réaction d'un spectateur. Des fois par les téléphones portables qui sonnent.
Ah.
C'est arrivé hier, c'était rigolo parce que c'était dans un moment où le personnage de Poprečin était assez nerveux. Et donc du coup, toute cette colère s'est redirigée vers ce téléphone portable qui n'arrêtait pas de sonner.
Ça a calmé un petit peu.
Je sais pas. En tout cas, la personne a mis 3 plombes à l'éteindre, donc ça l'a pas embêté outre mesure.
Eh ben, on va faire la toccata.
Ben c'est la même la toccata, c'est celle-ci, hein. C'est celle qu'on vient d'entendre, la toccata. Oui. La suggestion diabolique, elle est bien. C'est un beau moment. Bon.
À ce moment-là, pendant ce temps-là, je vais te poser une autre de mes questions que j'aime bien. Tu laisses traîner les oreilles ensuite à la sortie du spectacle. C'est au Lucernaire, c'est ça? La salle est pas grande et proche des sorties. Et voir ce que les gens ont perçu.
Alors, je laisse traîner mes oreilles pas tant que ça parce qu'il faut qu'on démonte. Le décor juste après la représentation, mais des fois on se permet de démonter alors que les personnes ne sont pas totalement sorties, ce qui fait qu'on peut échanger avec elles aussi si elles le souhaitent. Voilà, ça laisse une liberté assez simple et informelle. Voilà, les personnes nous voient traîner au plateau.
Il y a une prolongation du spectacle, non?
Une prolongation.
Une tournée, je veux dire.
Oui. Ben, on espère qu'il y aura une belle tournée.
Pour l'instant, vous n'en savez rien.
Il y a quelques dates prévues. Et
où ça?
Alors là, je crois qu'il y a Marly-le-Roi, peut-être Rambérieu-en-Bugey, je ne sais plus, Buc aussi. Ça, c'est, oui, ça, c'est bientôt, Buc. Et puis sinon, on joue à Avignon normalement l'été prochain.
D'accord.
Au Festival d'Avignon. Voilà. Et puis, bah là, c'est un spectacle qui démarre. Donc, de toute manière, pour l'instant, on n'a pas eu encore tous les retours. Voilà. Les professionnels, les programmateurs commencent juste à venir.
Voilà. Et de mon côté, ça y est, j'ai une preuve que Prokofiev ne peut pas être tombé totalement dans le domaine public, puisqu'en 1935, il était encore vivant et pouvait enregistrer lui-même un de ses morceaux.
Thank you.
Ce journal d'un fou, aventures extraordinaires d'un insensé, il a lieu où? Il a lieu quand? Je pose la question sur la salle de spectacle et les horaires, mais aussi sur le parti pris peut-être de dire ça se passe pas forcément en Russie, ça se passe pas forcément à l'époque de Gogol.
Ah, oui. Alors, moi, je vais d'abord répondre à la question la plus simple. Ça se passe au théâtre du Lucernaire tous les jours, sauf le lundi, à 21h, sauf le dimanche où c'est à 17h. Et jusqu'au 10 décembre. Voilà. Et pour ce qui est vraiment du journal d'un fou de l'histoire, ça se passe où? Alors, c'est un plateau, c'est un décor qui est... c'est un plancher incliné. En accordéon, donc très instable, très accidenté.
Mais très original. Hein.
Oui, très original. C'est Antoine Millian qui a fait le décor, c'est un scénographe avec laquelle la compagnie travaille depuis pas mal de temps maintenant. Et donc ça représente, ce plancher représente là une chambre. La chambre de Poprychine. Et ça peut aussi, à des moments, ça se transforme en bureau. Oui. Le bureau du directeur dans lequel Poprychine taille les plumes. Voilà. Et au niveau de l'époque, c'est pareil, on n'a pas voulu marquer l'époque de Gogol. Ça se passe, allez, on va dire, années 60. Voilà, les costumes sont plutôt marqués années 60. Mais c'est assez... oui, c'est pas défini parce que le thème développé dans ce texte est encore très présent aujourd'hui. Donc, on ne voulait pas l'ancrer dans un passé, on ne voulait pas l'ancrer dans le 19e. C'est encore aujourd'hui, il y a... Ce thème-là est présent, de la folie, de la solitude, du harcèlement, parce que c'est quand même un petit fonctionnaire qui est harcelé par son chef aussi. Donc c'est tous des mécanismes qu'on a.
Et aussi de la schizophrénie aussi.
Et de la schizophrénie, fatalement, oui. Ah. Oui, oui.
Il y a des gens qui se reconnaissent?
Des spectateurs?
Dans ce personnage?
Oh, je pense. Je pense. Pas dans sa totalité, mais dans certains aspects, oui. Je pense. J'espère, parce qu'il y a... Oui.
Au fait, ça finit bien ou mal?
Ah bah ça, je ne vais pas tout vous dévoiler. Vous n'êtes pas venu, vous, encore. Ah. Et ben voilà, ça sera l'occasion.
Vous y allez.
Autre question naïve, qui a fait la mise en scène?
Eh ben, alors c'est Ronan Rivière, en fait, qui fait la mise en scène.
Et qui joue.
Oui. Oui, après, ça se fait aussi vraiment au plateau. Tous les deux, on disait le texte, on s'essayait, et ça se crée aussi à deux.
T'as eu ton mot à dire, quoi.
Pardon ?
T'as eu ton mot à dire ?
Oui, c'est quand même un metteur en scène qui est assez ouvert. C'est pas un tyran, du tout. C'est plutôt agréable d'ailleurs de travailler avec lui.
Les prochains projets?
Alors, il va reprendre, la compagnie Voix des Plumes va reprendre le Révisor de Gogol, normalement pour l'été prochain, ben justement au mois Molière.
D'accord.
Et peut-être ensuite, on espère, à Avignon à nouveau. Voilà pour l'instant.
Tiens... Je vais rebondir sur une de tes remarques de tout à l'heure, parce qu'il y a un truc qui me fascine toujours quand je vois des acteurs. Comment vous faites pour retenir une pièce en entier? En plus, là, vous n'êtes que deux, et ça dure combien de temps?
C'est pas long, ça dure 1h10.
Putain, attends, tu te vois parler pendant 1h10 en sachant exactement tout ce que tu vas dire, c'est quand même...
Alors,
comment vous faites?
Déjà, je ne parle pas pendant 1h10 sur cette pièce. J'ai moins de texte que Ronan. Mais c'est un muscle, en fait, la mémoire, je crois. C'est comme faire des pompes. Au début, vous en faites 3. Puis après, à force d'en faire, vous en faites 5 et ainsi de suite. Donc, la mémoire, ça s'entraîne. Et donc, ouais.
Ouais, mais en tant que comédienne, tu t'en es enquillé combien de pièces déjà ?
Pas mal. Je sais pas, j'ai pas compté, mais pas mal, ouais.
Et...
Mais là, c'est vraiment la première fois où je me retrouve à avoir des trous de texte.
Des trous de texte ?
Ouais.
Ah oui.
Et c'est le premier spectacle où, paf, en plein milieu, je sais plus où je suis. C'est très étrange. C'est très désagréable aussi.
C'est un des premiers symptômes de, pas la schizophrénie, mais je ne sais pas exactement.
Peut-être.
Ben, c'est un peu tôt quand même.
Mais je me pose quand même la question. Gogol a écrit sa pièce il y a combien de temps
Alors, celle-ci, c'était 1835, si je ne dis pas de bêtises. Attendez, j'ai un pense-bête. Mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Donc, vous faites le calcul, 1800, je suis très mauvaise en calcul, mais ça fait...
Mm-hmm. 1834.
34,
d'accord. Ben oui.
Mais, vous avez tout, en fait. Vous n'êtes vous êtes pas venu voir le spectacle, mais vous avez fouillé.
Oui, mais la connaissance sur la folie a changé depuis.
Alors... Elle l'a changé et pourtant les traitements c'est pas ça hein, encore. C'est marrant parce que dans, enfin c'est marrant non c'est pas marrant dans le texte à un moment donné Poprichine dit bah voilà il me verse de parce qu'il est interné forcément au bout d'un moment il peut plus vivre. Bon donc on l'amène à l'hôpital psychiatrique et il dit on me verse de l'eau froide sur la tête. Et ben c'est un peu barbare c'est ce qu'il faisait à l'époque. Mais c'est ce qui se faisait il y a encore très peu de temps. Et aujourd'hui, il n'y a plus, d'internement à long terme. On met les gens dehors, on les met sous camisole chimique et puis on les laisse dehors. Il y a beaucoup, beaucoup de...
C'est la médecine populaire traditionnelle, quoi.
Populaire traditionnelle, c'est-à-dire ?
Se verser de l'eau froide sur la tête, des choses comme ça.
Ah ben, ils faisaient ça dans les hôpitaux psychiatriques, c'est ce que les médecins faisaient aux aliénés, oui.
En se disant maintenant, on le fait de façon chimique.
Maintenant, on le fait de façon chimique et on met les gens dehors. Et il y a beaucoup, beaucoup de schizophrènes qui sont à la rue, qui n'ont même pas de domicile. Enfin, il y en a... Donc, c'est très mal pris en charge. La folie, aujourd'hui, quand même.
Mais alors, ce petit fonctionnaire un peu fou, tu l'aimes bien ?
Ouais. Oui, bah, il est très touchant. Il est très touchant dans sa maladresse, dans sa naïveté. Et dans... Il y a quelque chose d'assez joyeux, malgré tout. Cette envie de sortir de sa condition. C'est pour ça que je pense qu'on peut s'y retrouver quand vous posiez la question est-ce qu'il y a des personnes qui s'identifie au personnage, je pense que oui, on peut s'identifier sur plein de petits détails.
Le nom Nicolas Gogol est facile à prononcer. Les autres noms dans la pièce, vous avez pris des cours, vous avez consulté quelqu'un pour être sûr de ne pas vous planter.
Alors, au début, on était à Poprichtine, bon, c'est un... Mais voilà, bon, non. Finalement, on prend l'habitude. Assez vite, non, on n'a pas consulté.
Il y a d'autres noms qui interviennent comme ça ou...
Non, c'est le seul. Non, puis Mavra, c'est simple. Mais non. Non, c'est le seul nom dans la pièce qui est compliqué. C'est pas si compliqué que ça, quand même.
Il n'y a aucun engagement du côté politique ou quoi que ce soit dans le discours de Gogol.
Je pense pas de manière consciente en tout cas.
Mais inconsciente.
Inconsciemment oui parce que il était quand même très critique de certains aspects de. C'est compliqué avec Nikolaï Gogol parce qu'il était, il était ukrainien à la base, mais il est parti à Pétersbourg, qui était la grande ville pleine de de fantasmes. Voilà, il avait plein d'espoir en allant là-bas. Bon, il s'est trouvé très déçu. Mais il n'empêche que il n'a pas...
Et au fait, en Ukraine, elle pourrait bien se jouer, cette pièce ?
Oui, enfin après, on ne parle pas ukrainien.
Ça n'a pas été traduit en ukrainien.
Alors, je crois que Gogol écrivait en russe.
Ah.
Je crois qu'il écrivait en russe. Pareil. D'accord. J'espère pas vous dire de bêtises. Après, elle a peut-être elle a dû être traduite en ukrainien. Mmh. Mais il y a peut-être des compagnies ukrainiennes qui s'en sont emparées. Hein. Ça, c'est pas.
Mais c'est vrai. Vu le contexte actuel.
Mmh. Après, nous, on va pas partir en Ukraine jouer le journal d'info.
Pourquoi pas?
Oui, pourquoi pas? Je sais pas si ça a un grand intérêt. Oui, ça sera une belle aventure pour nous, en tant qu'individus. Mais bon, je suis pas sûre qu'on apporte quelque chose de...
Par rapport à l'histoire, quoi. Mmh. Mmh.
Non, mais ça doit être monté là-bas par des compagnies locales.
Ouais.
Que ce soit des compagnies ukrainiennes ou des compagnies russes.
Oui. Du coin.
Oui. Voilà.
Sincèrement, j'ai cru à une blague dans le dossier de presse quand j'ai lu que parmi les morceaux interprétés, il y avait la marche de l'amour des trois oranges. Je me suis dit, c'est des trucs collés entre eux, mais c'est une faute de frappe d'une ligne à l'autre.
Non, c'est bien l'amour des trois oranges, ce morceau. Et alors, c'est le moment où Poprichine devient roi d'Espagne. Il se prend pour le roi et il s'imagine marcher sur la perspective Nevski en étant roi d'Espagne.
Et voilà. Il y croit.
Ah bah lui, il y croit, oui, bien sûr.
La domestique ne l'a jamais remis en question.
Le problème avec les... oui, c'est très compliqué. Et je pense que c'est pour ça aussi que le personnage de Mavra est intéressant, c'est on s'aperçoit que... Alors, pour ceux qui sombrent dans la folie, c'est pas toujours évident, mais alors, pour ceux qui vivent avec ces personnes-là, c'est... pas évident non plus. Quoi qu'on dise, on a l'impression de participer, de rajouter de la folie à la folie. Enfin, c'est,
d'accord. Elle peut aussi avoir une influence, pas thérapeutique, mais...
Oui, je pense...
Qui peut calmer un petit peu la folie.
Qui peut calmer peut-être en cas de crise, mais qui ne fera rien. Enfin, il va pas guérir de sa folie. Elle va pas le guérir par son comportement. Je crois que c'est impossible. C'est quand vous êtes face à une personne schizophrène, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Et c'est ça aussi que ça raconte, quoi. Et à un moment donné, elle lui demande de lire... Non, c'est lui qui lui demande, pardon, de lire les lettres de chien qu'il a attrapé. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et donc, elle commence à lire les lettres, mais lui délire complètement. Puisqu'elle se transforme, enfin, il la voit se transformer en, en chien. Donc, involontairement, elle rajoute elle de la folie, quoi. Mais de manière involontaire.
Oui, oui.
C'est lui qui interprète tout ça.
À aucun moment, elle le contredit ou quoi que ce soit.
Bah, elle essaye de le ramener quand même terre à terre.
C'est ça.
Voilà, mais...
Elle
n'a pas de prise, non. Non. Et je pense qu'on n'a pas de prise aujourd'hui sur les personnes qui sont atteintes de schizophrénie.
Amélie Vigneault, imaginons là que j'ai la possibilité de foutre face à toi Nikolaï Gogol.
Ouais,
qu'est-ce que tu lui demandes sur son texte?
Waouh.
Truc où vous vous dites, là, je me demande pourquoi il a fait ça. Il a dû vous arriver en adaptant et en mettant ça sur la scène.
Non. Je ne me suis jamais posé ce type de questions. Non.
Ou lui demander s'il en a connu un, de qui il s'est inspiré.
Est-ce qu'à l'époque de Gogol, il y avait déjà des fous?
Oh bah oui, je pense, oui, la schizophrénie, ça date pas.
Et des fonctionnaires.
Ouais, je pense qu'il y a toujours eu et il y aura toujours. Non, parce que moi, je le vois plus large que ça. Certes, c'est la schizophrénie, mais on peut voir aussi d'autres inspirations, la solitude, l'enfermement, la maltraitance. Je pense qu'il s'est inspiré aussi de personnes fragiles, mais pas forcément
schizophrènes. L'incompréhension des autres.
Oui, aussi, la singularité, parce que ça questionne ça aussi, questionne la singularité. Et après, non, face à Gogol, alors là, je ne saurais pas quoi lui dire, je serais très impressionnée.
De toute façon, il parlerait russe et toi français, donc vous seriez mal. Mais...
Oui, est-ce que Gogol avait affaire justement à des fous à son époque?
Je pense, oui. Lui-même n'était pas très net quand même, comme
dans tout ce qu'il a écrit, oui, il faut avoir des... Oui. Il avait des putains d'idées, quoi, quand même.
Oui. puis on dit qu'il a un peu basculé dans le mysticisme. Enfin bon, voilà, c'était quelqu'un qui était assez singulier déjà.
Attends, la prochaine sur laquelle vous travaillez, c'est
Le Réviseur. Alors, moi, je suis pas dessus, mais c'est une équipe de, ils seront 7 avec le pianiste toujours.
Le même,
ouais, parce qu'on a la chance d'avoir Olivier Mazal, qui est vraiment un super pianiste. Il est, je trouve assez extraordinaire. Prokofiev, là, ce qu'il joue, c'est vraiment pas évident. Pas évident du tout. Donc ils seront 7, le pianiste. Ronan, toujours à la mise en scène, et puis en tant que comédien.
Ça serait quand?
Normalement, ça doit se créer au mois Molière, donc en juin. On n'a pas la date exacte de la représentation, mais c'est...
2024.
Oui.
D'accord.
Ouais.
Mais s'il faut, on va le faire, Radio Service Public, pitcher Le Réviseur. Résumer Le Réviseur.
Alors là, vous m'en demandez beaucoup. Je ne l'ai pas relu. Le Réviseur, on est dans une bourgade, on dit qu'il y a le Réviseur arrive. Donc tout le monde va se mettre en quatre pour accueillir le Réviseur, et qui est un conseiller d'État en fait. D'ailleurs, c'est qui exactement le Réviseur? Je ne sais pas. Vous savez, vous? Non. On va dire
du Réviseur.
Justement, c'est pour ça que je vous pose la question.
D'où ça vient, Réviseur?
Un conseiller d'État, en tout cas une personne très importante. Et puis un homme arrive. Alors c'est le Réviseur qui arrive. Hop. Et puis il tout, enfin, il a pas d'argent, ce garçon. Donc, il n'y a pas de problème. On paye pour lui l'hôtel, la nourriture, tout ça. On lui avance des frais, tout ça. On le reçoit bien en grande pompe. Et jusqu'au jour où cette personne s'en va et le réviseur arrive. Voilà. Donc, ce n'était pas le réviseur qui était là. C'était un gars sans le sou qui a profité de la situation et puis voilà. Et qui a roulé tout le monde dans la farine.
D'accord.
Bon, mais ça.
Sans état d'âme.
Sans état d'âme. Voilà.
Ah, j'ai une autre question naïve. Le prix des places au Lucernaire.
Alors, elle n'est pas naïve du tout, cette question. Le prix des places au Lucernaire, c'est 25 euros plein tarif. Il y a des tarifs réduits à 15. Pour les moins de 26 ans, ça c'est intéressant.
Et pour les seniors aussi
Je ne sais pas, pour les seniors.
Le plein tarif est à 30 dans ce que j'ai moi. Et c'est 25 pour les seniors, tu vois.
Ah, bah alors, alors 30 plein tarif, 25 pour les... Vous dites question naïve, mais vous avez... c'est terrible. Donc, 30 plein tarif, 25 pour les seniors, moins de 26 ans, ça je suis sûre, 10 euros. parce qu'il y a une participation de la ville de Paris. Et ensuite, je sais qu'il y a sur les sites là, type Pierre et Duc ou tout ça, il y a moyen d'avoir des places quand même moins chères. Je crois que le ticket moyen aujourd'hui est à 15-20 euros. Voilà.
C'est à quelle heure ?
C'est 21h.
Le Lucernaire, c'est 53 rue Notre-Dame-des-Champs, métro Vavin, Notre-Dame-des-Champs. Oui, et...
Réviseur ?
Ah, le réviseur, je ne sais pas du tout. Ça sera sans doute. Ils vont commencer par faire le Festival d'Avignon, normalement cet été. Et ensuite, il y a des pistes. Voilà, il y a des pistes. Mais comme elles ne sont pas confirmées encore, je ne dis rien.
Pas spécialement au Lucernaire.
Pas forcément. Voilà. Et le journal d'info devrait se reprendre peut-être, c'est en bonne voie, on va dire, au théâtre du Ranelagh.
D'accord.
À la rentrée prochaine.
Le Lucernaire est quand même un endroit un peu spécial où on découvre des salles en bas, des salles en haut, etc. D'une librairie et des je ne sais quoi. T'es allé traîner voir les spectacles des autres après ou avant ?
Alors,
t'as un coup de cœur ou
non? Je n'ai pas eu le temps encore d'aller voir des spectacles. Avant, c'est toujours un peu compliqué.
Oui.
Après,
on est claqué aussi.
Mais on est les derniers surtout. Donc non, pour l'instant, j'ai rien vu du tout. Il y a quoi? Alors il y a pas mal de Russes. Il y a tout Dostoïevski qui est juste avant nous. Qui paraît-il est très très joyeux, assez léger. J'ai vu quelqu'un qui l'avait vu et voilà, qui en est ressorti très content. il y a du Tchekhov qui commence la semaine prochaine aussi. Voilà, ça c'est. Alors c'est les petites pièces courtes de Tchekhov. C'est un mélange. Il y a la demande en mariage, l'ours, les méfaits du tabac et d'autres. Je ne sais plus lesquels.
Drame et la mort d'un fonctionnaire. Tu vois, c'est, je triche, hein, c'est fou d'avoir et Internet à côté de soi.
Voilà. Moi, j'ai mes petits pense-bêtes papier. Et vous avez Internet. Mais ce qui est intéressant dans ce spectacle, c'est qu'ils changent toutes les semaines. C'est-à-dire qu'ils alternent... ils alternent les nouvelles une semaine sur l'autre. Donc, c'est un spectacle que j'imagine on peut voir plusieurs fois. Voilà. Mais je ne l'ai pas vu, je ne sais pas du tout.
Très bien.
Ce que ça vaut.
Thank you.
paroles de Yasser Arafat. J'exige notre droit de vie. Je tiens en main un rameau d'olivier, promesse de notre patrie debout sur les bords de l'exil. Je veux que le jour soit réel. Je veux que notre belle Palestine soit une porte ouverte au levant des lumières de ce siècle XXe. Je veux que son écriture soit alphabet naissant et s'étale sur les étapes de notre combat. J'exige notre droit à la vie pour que la liberté fleurisse sur toutes les lèvres. Yasser Arafat. Voilà. Symboliquement.
Через телекабель.
Оставь сюда входящий, что еще не оставь.
Распятый мальчик на доске объявлений. Сколько пошло убивать, убийцам поверь.
Замироточили карты империи.
Цены жизни переоценена. Женщина больше рожать должна.
Солдат не жалеть,
еще нарожают.
Они нас здесь
за людей не считают.
Никто не забыт,
ничто не забыто.
Ветераны едят из пустого корыта.
Счастье Родины дороже жизни. Счастье Родины дороже жизни.
Суверенная демократия, национальные интересы, превентивный удар, жест доброй воли. Все не так однозначно, сами себя бомбят. Дискредитация армии, традиционные ценности, оптимизация расходов, отрицательный рост, стратегическое отступление, импортозамещение, воля миллионов, донос, долг патриота, частичная мобилизация, денацификация, ядерный пепел, выравнивание границ, хлопок, задымление, обвал штукатурки. Никакой паники нет!
Мы вас не простим и растопчем останки. Сгорит красиво башня Останкино. Полстраны осталось без дома.
Пьют палачи в погонах.
Заграды, отряды, марш заключенный.
Ком сторожит у роддома.
Ребенок шьет военную робу.
Русское поле расстрельных полигонов.
В черном пакете крещеном едет домой русский суженый.
Повестка, водка в автобусе, проводы. Мама вяжет бронежилет от холода.
Сестра сидит за антивоенные слоты.
Замещение импортом мертвыми мышами.
Замещение мужчин даренными баранами.
Замещение мозгов, Россия сегодня.
Зима уходит, приходит преисподня.
Женщины, дети истошно кричат.
Чекисты пьют чай, наблюдая закат.
Никто не услышит твою мольбу.
Росгвардия стреляет прямо в толпу.
Не поражение, а перегруппировка. Не груз 200, а переупаковка. Братские могилы вырыты по ГОСТу. Просим прощения за неудобства. Просим прощения за неполадки. Война это праздник и все в порядке.
Quelque part on tue au nom de la loi. Des innocents périssent sous les bombes. Quelque part on tue au nom de la loi, de la foi. Et des innocents remplissent les tombes. Quelque part on tue au nom du plus fort. Et quelque part on s'accroche à tout prix, semant la désolation et la mort, pour rester sur un fauteuil bien assis. Quelque part, ont-tu au nom du pouvoir, quelque part ont-tu juste pour essayer, arme destructrice, venue du savoir, personne ne dit rien, en toute liberté. Grand Seigneur, est-ce la fin de ce monde? Mais d'où provient cette folie meurtrière? Oh, combien d'âmes montent au ciel par seconde, et combien de corps vont au cimetière? La haine tire la haine, et tout la violence, infernale et bien odieux engrenage, lançant la carte de la différence pour justifier à tout prix le carnage. Être ou ne pas être, telle est la question, peut-être. Honte à vous, humains, dotés d'un cerveau, faut-il à ce point perdre la raison, juste pour la différence de teint et de peau? Pourtant, la terre est si vaste, si grande, pour faire vivre toutes les communautés. Mais qui tient les rênes des communes et des commandes et tire profit de ces atrocités? L'humain, es-tu devenu enragé? Mais pourquoi ne peux-tu pas supporter ton frère, cousin, parent de l'humanité? Un jour, tu seras aussi sous la terre, ou dans crématorium, parti en fumée. Voilà, poète Mokhtar.
ولمسة أمي وتكبر في الطفولة يوما على صدري يومي وتكبر في الطفولة يوما على صدري يومي وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمعي أمي آه من دمعي أمي يا حلم
أمي ولمسة أمي وتكبر في الطفولة يوما على صدري يوم وأعش عمري لأني إذا مت أخجل من دمعي
أمي ولمسة أمي وتكبر في الطفولة يوما على صدري يومي وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمعي
poème de Mahmoud Darwish « Oh ma mère »,« Si je mourrais un jour, j'aurais honte des larmes de ma mère », interprété par Marcel Khalifeh, chanteur libanais qui a d'ailleurs eu des problèmes accusés de blasphème pour l'un des textes de Mahmoud Darwish qu'il avait interprété, mais ça c'était évidemment vis-à-vis des religieux de tout poil, mais c'était évidemment au siècle dernier qu'il avait eu ces problèmes-là. Radio Libertaire, 89,4 MHz.
Oui, donc juste quelques mots par rapport à la mise en scène, le décor et les costumes de notre ami Gogol, le journal d'un fou. Donc la mise en scène et l'interprétation s'accrochent ainsi au réel avec une grande légèreté. Il faut faire entendre la voix d'un homme de notre monde qui a les deux pieds sur terre, mais la tête ailleurs. Et qui essaie de faire la jonction entre le réel et son imagination. Il faut éviter toute lourdeur comme toute abstraction. Proprichtin est un fou réaliste, voilà, mené par ses idées sur le monde qui l'entoure. Ce concret est d'ailleurs amené dans notre adaptation par l'œil très pragmatique et terrien de notre cher Mavra. Il faut jouer ainsi l'alternance entre la logique implacable et la perplexité, restée à la frontière d'un humour naïf, décalé, et d'une poésie étrange, comme un tableau d'art brut. Par rapport au décor, donc, il s'agit d'un plancher penché en accordéon, une sorte de porte et juste un tabouret, figurant des intérieurs, appartements, bureaux du ministère, etc., incommode, la difficulté d'y trouver sa place et un fondement penché bancal. Accenti pourra s'en servir de lit, d'une latte qui se rehausse comme table. L'extérieur est praticable, représentera la rue, la ville, le décor. Pour revenir au costume, eh bien, ils seront de style milieu du XXe siècle, c'est-à-dire entre l'époque de Gogol et la nôtre, pour justement s'extraire du temps, ne marquer ni l'actualité, ni un passé éloigné. Proprichtin n'est pas un fonctionnaire d'aujourd'hui, son environnement n'est pas le même que nous, mais sa schizophrénie et certains de ses questionnements sont très actuels. Quant à la musique maintenant de Prokofiev, tour à tour obsessionnel et enthousiaste, sera jouée sur scène par Olivier Mazal. Elle donnera donc des respirations au texte et prendra en charge une partie de la folie. Elle pourra illustrer les errances de la pensée, les rêves, les cauchemars et les tergiversations du héros. Voilà en ce qui concerne le côté intérieur. voilà. Et merci de nous avoir écoutés sur Radio Libertaire.
Et on conclura avec le petit cadeau d'Evelyne et Jean-Marie.
Qu'on ne le soit pas. Les grands sont souvent appelés petits cons. Quand les petits s'entendent traiter de grands cons. Pour la droite, les gauchistes sont des cons à enfermer. Mais pour la gauche, les fascistes sont des cons en liberté. On peut être riche et traité de pauvre con. Sortir de sa douche, rester un sale con. Ceux qui se perdent en conjectures sur la nourriture des cons trouveront que, par nature, ils mangent tous comme des cons. Qu'on le soit pas, on est le con de quelqu'un. Rassuré à chaque fois que l'on trouve plus con que soi. Il y a de sacrés cons qui ont tant besoin pour qu'on les croie cons d'un sceptre à la main. Inutile d'être géomètre pour être un vieux con borné, ni champion de tir pour être un jeune con carabiné. Dites à un raciste, t'as une tête de con. Il ne vous croira pas. Il est bien trop con. Si ce con se sent à l'aise, c'est qu'il sait très bien au fond que s'il est con comme un pot de fraise, c'est pas marqué sur son front. Qu'on le soit ou qu'on ne le soit pas, on est le con de quelqu'un. Rassuré à chaque fois que l'on trouve plus con que soi. Que ceux qui m'écoutent juste en ce moment n'aient plus aucun doute. J'en suis un, vraiment. Mais que tous les cons en place, dont on dit qu'ils sont les rois, sachent bien que je m'efface quand je trouve plus cons que moi. Qu'on le soit pas, on est le con de quelqu'un, rassuré à chaque fois que l'on trouve plus con que moi. 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 Exactement, merci.
Ça dans la, c'est la Pléiade, alors c'est dans le, c'est rupture. Et ça s'appelle Réveil. Les jours auprès de moi se fixent, mes images tournent dans l'oubli. Si je m'approche du miroir, je n'y découvre rien de moi. Hier encore, j'eusse dit mes mains, et aussi mes jours et mes nuits. Aujourd'hui, je ne sais que dire. Tous les mots sont restés au loin, saisis par leur propre délire. Est-ce moi qui suis assis sur le talus de la nuit? Ce n'est pas même un ami, c'est n'importe qui. Regardons ailleurs, ailleurs, regardons toujours ailleurs. Tout seul, sans moi, tout privé de visage, me suffirait un petit peu de moi. Mon moi est loin, perdu, dans quel voyage? Comment savoir même s'il rentrera? Formons un tas de mes petites hardes, ne pensons plus au maître dur qui tarde. Et quand le moi est parti sans conteste, comment ne pas trembler dans ce qui reste? Mince enveloppe où j'essaie d'avoir chaud, tant bien que mal, loin de mes propres os. Moi, de monter vidéo, ne me tourne pas le dos. Avons-nous vraiment fini de nous croire bons amis? Moi, de Pologne et d'Autriche, êtes-vous resté en friche, allongé sur le côté du train où je me trouvais? Et vous tous, prêts à venir, qui attendez votre tour? Tous ces mois cherchant à vivre et qu'un jour enfin délivre, que je nomme compagnons ceux qui furent et seront. Est-ce que vous m'entendez au fond de votre secret? Comment faut-il vous parler? Comment puis-je vous toucher, ne pouvant vous approcher? Voilà, c'est un extrait de Rupture de Jules Supervielle.
Et quand elle dit « moi » dans Jules Supervielle, c'est « moi » M-O-I, c'est pas « M-O-A » comme « je te laisse conclure, moi », le temps de préparer le studio pour Bulle de rêve dans un instant.
Oui.
Je te laisse conclure, rappeler notre invité où a lieu la pièce.
Ça a été un grand plaisir d'avoir invité notre amie Amélie,
oui.
Voilà, qui joue donc dans le journal d'un fou. Au
Lucernaire.
Au Lucernaire, ouais. Toujours, bien sûr.
Toujours dans la salle du paradis.
Dans la salle du paradis, voilà. Et donc, nous avons une pensée toute particulière aux victimes de Gaza. C'est clair. Voilà, nous sommes très, très, très touchés par cette atrocité, vraiment atrocité, que nous vivons pratiquement en direct de Gaza. Et de Radio Libertaire, je transmets donc vraiment toute mon amitié aux familles des victimes. Voilà. Et je vous remercie de nous avoir écoutés.
Et on se retrouve la semaine prochaine, mais dans l'immédiat, on se retrouve sur Radio Libertaire avec Bulle de rêve.
It's almost time, kids. The clock is ticking. Be in front of your TV sets for the horror-thon. And remember the big giveaway at 9. Don't miss it. And don't forget to wear your masks. The clock is ticking. It's almost time.
Happy Halloween, Halloween, Halloween. Happy Halloween, Silver Shamrock.
Bonjour, bonjour. Bienvenue à Bulle de rêve, Alexis Huneau, présentation. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, souvent j'étais seul en face de Nicolas, qui est là, derrière, et souvent il n'y avait pas forcément d'invité. Et souvent on allait dans une improvisation, quelque chose que j'avais prévu juste la veille. Eh bien, bonne nouvelle pour les gens qui aiment bien ce genre d'émission, mauvaise nouvelle pour les gens qui n'aiment pas, on va faire la même chose, sauf que là, on va être à 3 pour faire cette émission improvisée. Nous n'avons quasiment rien préparé. Je viens même de me faire engueuler gentiment dans le couloir parce que je n'ai pas compris quel était l'album du mois. Et donc, le morceau que vous allez entendre, qui n'est pas de l'album du mois, je me disais, il n'y a pas d'album du mois ce mois-ci. Ben non, il y avait un album du mois et j'en suis désolé. J'ai même censuré parce que pour l'instant, on va même pas l'écouter du tout, cet album du mois. Même si on en parlera, bien évidemment, on verra. Mais donc voilà, donc cette improvisation avec Marie-Pauline Mollaret. Bonjour Marie-Pauline.
Bonjour Alexis, bonjour tout le monde.
Et avec Nicolas Tisse. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Et donc voilà, donc ma bulle de rêve. Alors, on sait pas trop, on a des choses, on va parler, chacun d'entre nous, on a réfléchi à des sujets sur lesquels on va parler. Va-t-on parler de Miyazaki et de la sortie du film? Moi, je l'ai pas vu, en tout cas, donc je n'en parlerai pas de mon côté. Va-t-on parler du côté médiatique, évidemment? Si vous ne savez pas que le dernier Miyazaki est sorti, alors qu'il y a quelques années, je me rappelle quand j'ai commencé Bulle de rêve, il y a beaucoup d'années maintenant, on râlait tout le temps en disant, on ne parle pas beaucoup d'animation. Là, il y a même eu une nuit spéciale sur France Inter de 4h et quelques avec une Anne Nguyen, un ami très proche de. Ça nous a beaucoup fait rire parce qu'il était nommé, voilà, ami, c'est ça, un très proche de.
Un proche de Miyazaki.
Un proche de Miyazaki.
Enfin, une définition très, très, très précise.
Je crois que c'est un traducteur.
Qui connaît très bien Miyazaki.
Voilà. Et je trouvais ça chouette, je pense qu'on pouvait dire maintenant. Et je vais vous présenter Nicolas Tiss, qui connaît très bien Théodore Huchef, Marie-Pauline Polaric, qui connaît très bien, etc. Donc voilà, donc il y a tout ce côté médiatique hein, fort. Je ne sais pas si le film a marché. Ça cache quelque chose, de toute façon, qu'on ne va pas se mentir. On ne va pas se mentir, mais dont on va reparler plus tard, c'est que les films d'animation, quand même, ont encore du mal à trouver leur public. Encore une fois, je n'ai pas les résultats du Miyazaki. Je sais que les résultats
sont excellents.
Bon, ben super. Je sais que les résultats de Linda Vue du Poulet n'étaient malheureusement pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu s'attendre. Voilà, et que je ne sais pas si pour les films, et au-delà de leur qualité, mais Mars Express qui vont arriver, c'est-à-dire tous ces films français.
Ça dépend un petit peu aussi de la promotion qui va en être faite. Et Miyazaki, tout le monde en fait l'autopromotion en parlant à droite à gauche. Il n'y a pas besoin de beaucoup de choses, mais il y a 140 000 entrées le premier jour.
Ok, mais comme quoi il faut donc super démarrage.
Apparemment, c'est un meilleur démarrage que Barbie.
Waouh! Bon, faut voir si ça continue, mais en tout cas, c'est bien. Sûr, oui. Pendant les vacances, ben, c'est super que ça marche comme ça. Après, faut se méfier, je sais que des fois dans l'animation, je trouve qu'on est un peu trop sûr des choses, et notamment Linda Vue du Poulet qui a tellement eu un carton, qui a eu tous ses prix. Je pense qu'on a été un peu trop, et non pas qu'il y a eu une très bonne campagne publicitaire, mais je sais que par exemple, il y a une association d'animation, et je les blâme pas, ils font un gros boulot, hein, donc ne prenez pas ça si jamais écoutez contre ça, mais on dit, bah tiens, on va pas aider Linda Vue du Poulet parce que le film marche bien, par contre Mars Express, etc. Et on sait peut-être trop, non? Je sais pas, mais peut-être qu'on est trop content et on se dit trop, on voit un film à Annecy, ça va marcher forcément, on adore.
Oui, c'est bien possible, et surtout c'est vraiment pas le genre de réaction à avoir, parce qu'il est quand même assez compliqué de comprendre ce qui va marcher et ce qui va pas marcher, et on oublie aussi que Annecy c'est un festival formidable, mais c'est une petite bulle comme la plupart des festivals, et que c'est pas parce qu'un film est encensé dans ce festival en particulier que le public va en entendre parler. Et là en l'occurrence il y a des très bonnes critiques, hein. Moi j'ai vu circuler beaucoup de choses, Linda Vue du Poulet, ça